Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio U, c'est vous qui le dites. Nous espérons que vous avez bien profité du magnifique temps d'aujourd'hui. Pour cette dernière émission de la semaine, nous allons recevoir Benoît Morel, membre du club de volleyball de l'Andéda, et qui sera avec nous pour parler d'un événement qui se déroulera ce dimanche 4 mai, le Green Volley, un tournoi de volley sur pelouse. Et nous terminerons par la chronique hebdomadaire de Gwen. Mais tout de suite, nous avons accueilli au micro Taran Marek, conseiller municipal de Brest et élu du Parti communiste français, pour nous parler de la fête des jours heureux, qui se déroulera après la manifestation du 1er mai, place de la Liberté, la fête...
Bonjour. Tu es conseiller municipal pour la vitalité de la langue bretonne à Brest, mais aussi élu PCF et secrétaire fédéral des jeunes communistes du Finistère. Et donc demain, 1er mai, fête du travail, et donc vous organisez la fête des jours heureux. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ?
Alors c'est une vieille fête traditionnelle des communistes qui, cette année, revient le 1er mai, qui avait été arrêtée quelques années suite au Covid, et qui est dans l'objectif de se rassembler après, dans un moment convivial, ce jour de fête des travailleurs, après une belle manifestation qui aura lieu demain matin. C'est l'occasion de se retrouver dans un moment convivial et de renouer le lien avec les gens, prendre un moment pour parler. Il y aura un discours politique au début et on partagera un repas et le verre de l'amitié avec nos partenaires. C'est un grand moment de partage qui nous permet aussi de se retrouver, d'avoir ce moment, un jour férié, où on se retrouve et... on partage un moment ensemble pour refaire du lien dans un paysage politique qui est particulièrement troublé actuellement.
Justement, tu avais cité, il me semble, dans une des presses écrites, on veut incarner une gauche qui porte une lueur d'espoir des jours heureux. C'est un petit peu ça que tu veux aussi faire.
C'est ça, c'est l'objectif de reprendre un peu le discours qui était celui de l'après-guerre, qui était vraiment dans une volonté de redonner un peu d'espoir, et c'est vrai qu'actuellement, avec une extrême droite qui est aux portes du pouvoir, avec une actualité internationale qui nous voit des conflits qui se font à la guerre de qui est le plus fort et le droit est ignoré, de remettre un peu de paix dans tout ça et de recréer du lien entre les gens, de les faire sortir de leur solitude et de ramener un peu d'espoir dans cette période trouble où les gens subissent la misère d'une manière particulièrement violente avec l'inflation, les crises successives, et voilà, c'est ça, redonner un peu d'espoir, ça a été notre programme pendant les présidentielles, cette volonté de dire aux gens qu'un monde meilleur est possible. On peut, on n'a pas comme seul choix ou rester dans la politique actuelle ou se renfermer encore plus sur soi. On peut aussi donner de l'espoir et incarner aussi des mondes meilleurs.
Cet événement, il sera organisé par les sections du Pays de Brest, du Parti communiste et aussi de l'Association des Amis du Journal L'Humanité. Pourquoi avoir choisi aussi de faire cet événement avec eux ? Donc c'est un de vos partenaires ?
C'est ça, c'est une association qui promeut aussi le journal L'Humanité, qui est un vieux journal communiste qui a son histoire, qui est proche de la nôtre, étant donné que c'est un journal qui a été créé par Jean Jaurès avant même l'existence du Parti communiste, quand c'était encore la SFIO. C'est un journal qui incarne aussi une presse alternative dans une période où des milliardaires d'extrême droite achètent des médias et imposent des lignes éditoriales réactionnaires. C'est aussi un journal qui vit de ceux qui s'abonnent et qui amène un discours alternatif qui fait aussi, via la fête de l'humanité, un moment de partage, de lien qui est très important, qui permet aussi d'avoir un peu ce discours alternatif, et c'est extrêmement important d'avoir ce genre de presse.
En plus de ça, il y aura la présence de France-Palestine Solidarité. C'est aussi, est-ce que c'est important pour vous
Oui,
soit là aussi.
Ça fait partie de nos grands combats, que ce soit chez les jeunes communistes ou au Parti communiste. Ça fait des dizaines d'années qu'on est mobilisé en soutien au peuple palestinien qui subit les bombardements successifs, qui a subi le placement en camp, les colonisations en Cisjordanie. Et c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, qui fait partie de l'ADN de notre mouvement ces 30 dernières années, je crois. C'est vraiment un combat qu'on a mené depuis très longtemps, qui aujourd'hui est d'autant plus important. Et c'est aussi pour nous l'occasion de réaffirmer notre volonté que les Palestiniens aient un État qui soit reconnu et qui leur permette d'avoir un dialogue qui soit autre que celui de la force.
Est-ce que ce genre d'événement, comme vous allez l'organiser demain, ça peut être une bonne occasion aussi d'intéresser et d'attirer finalement des jeunes électeurs aussi avec vos discours
Oui, après, c'est vrai que c'est... Moi, je vois la JC, c'est le genre d'événement qui est un peu rattaché à l'histoire du parti, qui ramène des gens. Peut-être pas les événements les plus efficaces pour faire venir les plus jeunes, mais on a aussi, nous, en particulier les jeunes communistes, un discours auprès des jeunes. On a été très présents sur les universités, devant les lycées, à aller au dialogue. Et c'est vrai qu'on a une jeunesse qui, malheureusement, se renferme sur elle et qu'il faut aller chercher un peu plus, qui va moins sur les événements politiques, mais que l'on peut aller chercher, à qui on peut aller dialoguer. Je suis certain qu'il y aura de nombreux jeunes qui seront présents à la manifestation. Nous, jeunes communistes, on ira à leur rencontre pour leur parler, pour leur proposer nos combats et ce pour quoi on lutte. Et je pense qu'on peut aussi atteindre cette jeunesse.
Le banquet, donc il y aura un banquet entre midi et 13h, une inauguration de la fête, un apéritif et puis des animations musicales, une loterie, un espace associatif, hein, c'est assez rempli, même une animation musicale par un groupe sur un air de famille. C'est un groupe de musique.
J'avoue que là, je n'ai pas fait la programmation musicale, du coup, j'ai un peu moins suivi au niveau musical, mais c'est des partenaires qui feront un peu de musique et qui feront passer un moment convivial, sympathique.
L'argent sera reversé à une association ou ça va directement au PCF ou à...
C'est une fête qui ne fera pas de bénéfice, qui sert surtout à s'autofinancer. Autofinancer les repas. Après, il y aura une partie de l'argent qui servira aussi à financer notre militantisme au jour le jour. Les jeunes communistes aussi, via la loterie, récupéreront aussi un peu d'argent pour mobiliser les jeunes, parce que c'est vrai qu'on est, nous, à la JC, une organisation qui s'autofinance en partie. Et c'est vrai qu'on voit actuellement que les jeunes, c'est pour de plus en plus difficile de payer leurs cotisations parce que la vie est de plus en plus dure pour les jeunes et ça permet aussi d'avoir des cotisations faibles et de financer aussi nos actions.
Est-ce qu'il y a d'autres prochains événements que vous allez organiser avec le PCF après cette fête-là?
Oui, nous, y a un événement sur lequel on travaille beaucoup avec les jeunes communistes et le Parti communiste. On essaye d'organiser un débat sur la gratuité des transports, qui est une grande campagne que l'on mène à Brest, parce que c'est quelque chose qu'on considère comme possible et qui fait partie aussi de cette optique de vouloir donner de l'espoir aux gens. Nous, ce qu'on défend, c'est la gratuité pour les jeunes, parce que la gratuité, ça implique aussi de gros investissements, c'est-à-dire aussi plus d'usagers. Et nous, on porte cette gratuité pour les moins de 26, parce qu'on a vu que les jeunes ont été particulièrement touchés par les crises successives, le Covid, l'inflation. Et c'est quelque chose qui est possible, qui nécessite des investissements, mais auxquels on croit que ça peut vraiment changer les choses.
Quelle est la réponse de la mairie ou des élus concernant les transports, par exemple?
Ben nous, on est un peu seuls sur ce sujet parce que ça a un coût extrêmement important, la gratuité des transports. Après, c'est un coût qui doit être fait. Je pense que c'est un investissement qui doit être mené pour développer le réseau, parce que plus d'usagers, ça veut dire qu'il y a besoin de plus de bus, plus de trams qui passent, mais c'est aussi quelque chose qui va dans le sens de la transition écologique, qui va dans le sens du progrès social, parce que même s'il y a des aides qui existent, le non-accès aux aides fait qu'une bonne partie de la population n'utilise pas ces aides. Ça crée le fait que ce soit cher, ça crée aussi des tensions avec les usagers qui ne peuvent pas payer, qui se retrouvent à frauder. C'est des situations qui sont très, très compliquées. Mais on croit qu'il est possible. Malheureusement, nos partenaires ne sont pas encore convaincus. On va tout faire pour les convaincre, faire en sorte d'aboutir à une avancée sur le sujet. On avait déjà réussi ce mandat-ci à faire en sorte qu'il y ait un travail qui soit fait au niveau technique sur la réflexion sur les coûts que ça aurait, le chiffrage des coûts, l'impact que ça peut avoir sur le réseau. Par exemple, on sait que ça peut amener à doubler le nombre d'usagers sur le réseau, la gratuité pour les moins de 26. Du coup, c'est vraiment quelque chose qui nécessite de gros investissements. Mais quand nous, jeunes communistes, on est allés sur le terrain à la rencontre des gens, on a eu de grands retours. Surtout, on parlait des jeunes, mais ça convainquait tout le monde, le fait, parce que même les personnes plus âgées se disaient que c'était aussi difficile pour leurs enfants, leurs petits-enfants, et ils voyaient l'avancée sociale de la gratuité pour les jeunes. Et on a vu des gens qui étaient très intéressés par le sujet. Du coup, on est convaincu qu'on va réussir à faire avancer ce sujet, parce que c'est ce que fait Montpellier, c'est ce qu'a fait Dunkerque, c'est ce que font de nombreuses autres villes, de gauche comme de droite. Et à Brest, on pourrait le faire, j'en suis convaincu.
Concernant une nouvelle campagne que vous allez mettre en place à partir de demain, 1er mai, c'est donc 1 million d'emplois. Est-ce que vous pouvez
Alors c'est une grande campagne qui est lancée par le mouvement des jeunes communistes parce qu'on constate que les deux tiers des jeunes sont sous le seuil de pauvreté, qui est une vraie misère, une difficulté à trouver de l'emploi. Et on demande à ce qu'il y ait la création d'1 million d'emplois parce qu'on a besoin d'1 million d'emplois pour les services publics, parce qu'on voit nos services publics en grande difficulté, on voit la fac à Brest. Hein. 1 million d'emplois, c'est aussi 1 million d'emplois pour la transition écologique, pour faire en sorte de se donner les moyens de changer les choses au niveau environnemental, parce qu'on est dans une crise qui est urgente, et 1 million d'emplois aussi pour relancer l'industrie, parce que on voit que actuellement l'international, le fait que la France n'ait pas sa capacité à produire, la met en grande difficulté avec les négociations internationales, et il y a réellement besoin d'avoir cette ambition, et nous on a décidé qu'on se donnait comme objectif 1 million d'emplois et qu'on allait marteler pour qu'on ait cet 1 million d'emplois pour donner un peu d'espoir et la possibilité à tous les jeunes aujourd'hui d'avoir des conditions de travail dignes, parce que actuellement c'est particulièrement terrible hein, les conditions de travail. On est actuellement en France à 2 morts sur leur lieu de travail par jour, c'est des chiffres énormes, et il faut réellement se donner les moyens de changer les choses avec des emplois dignes pour les jeunes.
Je te remercie, Taran Marek, d'avoir été avec nous.
Merci pour l'invitation.
Merci. Sur Radio U pour la quotidienne, c'est vous qui le dites. Et nous terminons donc, enfin nous allons continuer. Nous recevons d'abord Benoît Morel, donc membre du club de volleyball de l'Andéda, et qui est avec nous ce soir par téléphone pour nous parler d'un événement qui se déroulera ce dimanche 4 mai, le Green Volley, un tournoi de volley sur pelouse. Bonjour Benoît.
Oui, bonjour Radio U, merci de me recevoir à l'antenne et bonjour à tous les auditeurs également. Voilà, donc en effet, on organise dimanche notre premier tournoi printanier, donc sur le port de la Bervrac à Landéda. Donc c'est un green volley, il va se dérouler, donc il se joue sur l'herbe. Le tournoi débute à partir de 13h, présent souhaité à partir de 12h. Donc sur place, il y aura petite restauration, buvette, barbecue. Plusieurs petits lots à gagner, dont un filet donc, de beach, de green, ballon, chaise de camping et plusieurs petits lots de bijoux de créateurs du coin. Donc les
sympa.
Inscriptions sont possibles... depuis Hello Asso, depuis le site Hello Asso.
D'accord.
Voilà, donc un petit peu pour présenter le tournoi.
À qui ce tournoi s'adresse alors ?
À tout public, toute personne aimant le volet, voulant découvrir, peut venir s'inscrire. Donc plutôt quand même à partir d'adolescent, 15 ans, début d'âge, histoire d'être à peu près sur le niveau de jeu, mais après, il n'y a pas de limitation.
Est-ce que c'est possible d'avoir des équipes mixtes pour ce, tournoi ?
Oui, tout à fait, oui. Oui. C'est mixte, donc c'est au souhait, donc 100% garçon ou fille ou mélangé, ça, c'est... comme souhaitent donc les équipes. Ce sont des équipes, ça se joue à 4. L'inscription était à 16€ par équipe, donc une moyenne de 4€ par personne. Donc le port, ça se situe sur le port de la Bervrac. Il y aura des indications. Dès que vous arrivez sur la commune de Landéda, il y aura les indications qui guident vers le port. Vous pouvez aussi retrouver les informations sur la page Facebook du club Éole Volley Landéda. Et pour les plus courageux, éventuellement, depuis Brest, en tout cas, il y a le Brace Go qui fait la ligne Porte de Gouesnou, Kergaradec, vers Landéda.
Super.
Voilà un petit peu pour la présentation.
Parfait. On se demandait d'où est venue cette idée d'organiser ce tournoi et qu'est-ce qui vous a motivé finalement
Eh ben, on profite déjà des premiers jours printaniers pour balancer les festivités, parce qu'ensuite, durant l'été, vont s'enchaîner plutôt les tournois, mais en mode de beach volley. Et comme on l'a fait l'année dernière et ça avait plutôt bien marché, du coup, on s'est dit, on va réitérer l'événement pour permettre un mode de jeu différent et de commencer d'ores et déjà pour les amateurs de volley de pouvoir jouer en extérieur.
Petite.
Je précise également.
Oui.
Oui, je voulais juste préciser qu'en cas de mauvais temps et d'annulation, bien sûr, les équipes seraient remboursées des frais d'inscription.
D'accord, très bien. Et on a une petite question de novice, pourquoi avoir choisi de jouer sur gazon ? Est-ce qu'il y a un intérêt particulier à cette surface finalement par rapport au bijoulet par exemple ?
Ça va changer un petit peu, c'est-à-dire on aura quand même un petit peu plus d'appui et de détente au niveau du jeu. Après c'est le côté fun, hein. C'est le côté fun aussi, c'est-à-dire que sur le gazon on va pouvoir retrouver également comme au beach des phases de jeu où on peut plonger, l'amortissement, la pelouse étant quand même assez douce au niveau des amortis, donc ça permet également de s'amuser là où on éviterait peut-être de se lancer en salle sur une structure beaucoup plus dure.
Est-ce que vous avez fait une petite annonce pour des bénévoles, ou pas du tout, pour cet événement ?
Non, du tout. Le bénévolat se fait au niveau du club, hein, comme on est une vingtaine de licenciés, donc on est là, une dizaine de bénévoles du club à organiser donc l'événement, à mettre en place toute la coordination, la logistique, montage des terrains, préparation donc des brochettes, du barbecue, etc.
Et c'est vous qui vous occupez aussi de tout ce qui est organisation de la nourriture, tout ça. C'est pareil?
Oui, c'est nous aussi, oui. On achète donc avec le traiteur charcutier de la commune, là, et on prépare après sur place.
Super. Bah, on va continuer l'interview dans un petit moment, et puis on fait une petite pause musicale entre-temps, et on se retrouve tout de suite.
Super, à tout de suite.
À tout de suite. Benoît Morel, vous êtes toujours avec nous.
Oui.
Alors, donc, on continue sur cette interview. Nous, on a une petite question par rapport à l'an dernier et donc votre tournoi que vous aviez organisé pendant les fêtes maritimes de juillet. Comment ça s'était passé un petit peu et puis quels souvenirs vous en aviez gardé?
Bien, pour un premier événement qu'on avait fait, c'était plutôt, on est resté sur une note positive, hein. C'est d'où justement notre intention de réitérer l'événement. Nous avions eu un beau temps, peut-être un petit peu de vent qui rendait donc les phases de jeu des fois un petit peu plus uniques, parce que voilà, quand le vent se mêle au jeu, des fois on se retrouve dans des situations assez burlesques, assez comiques. Après, je pense que c'est aussi l'emplacement du site, la proximité directe de la mer qui rend l'événement plutôt attractif et qui nous offre en tout cas de belles conditions pour s'amuser.
Super. Combien vous attendez un petit peu d'équipe pour cette année ?
Oh, on espère, on aimerait bien avoir une vingtaine d'équipes pour avoir quand même des phases de jeu intéressantes pour pouvoir bien occuper donc l'après-midi. ça. On est à une dizaine d'équipes d'inscrites. Maintenant, on sait que souvent, dans ce genre d'événement, les équipes ont la possibilité de s'inscrire directement sur place. Donc, on sait que, bon, au moins déjà, on part avec déjà assez d'équipes pour se dire qu'on peut lancer et maintenir l'événement. Et bah, la suite se jouera le jour même.
Est-ce que vous pouvez nous prédire un petit peu si bon, ce sera une ambiance un petit peu bon enfant ou si ce sera plus compétitif ?
Oui, non, ça reste bon enfant. Hein. Généralement, même les personnes viennent, certains groupes viennent déguisés. C'est vraiment, on n'est pas dans l'esprit de compétition de la même manière lorsqu'on joue en club. Après, bien sûr, il y a des équipes qui viennent de niveau, avec déjà des niveaux assez balèzes. Donc, eux, on le voit, ils sont dans un esprit un peu plus de compète. C'est également pour ça qu'en fonction du nombre, généralement, le tournoi peut se passer de telle manière où on fait d'abord une phase de qualification. Donc, on va retenir la moitié des équipes qualifiées qui vont jouer le tournoi principal. Et la seconde moitié qui auront été éliminées en phase de qualification joueront donc le tournoi de consolante. Donc, c'est équivaut à avoir deux mini-tournois dans le tournoi.
Super. Et petite dernière question, un petit peu, quels sont les prix ou le prix pour les gagnants du tournoi ou les gagnantes ?
Alors, on aura donc un filet de beach volley, également, donc il peut être mis sur herbe. On a un ballon de volley, une chaise de camping. On a plusieurs petits lots de créateurs, vu que sur la Bervac, il y a pas mal de petits artisans créateurs. Et après, bon, d'autres petits lots complémentaires. Voilà, donc ça reste un petit tournoi, hein, donc c'est vrai qu'on n'attend pas à des grands à des lots exceptionnels. C'est histoire de dire que les vainqueurs repartent avec quelque chose.
Très bien. On peut juste rappeler les horaires pour le 4 mai, alors, pour le dimanche ?
Oui, donc le début du tournoi est prévu à partir de 13h avec une présence souhaitée à partir de 12h, comme ça, donc tout est bien. On a le temps de finaliser justement le tirage au sort pour les groupes. Et donc, comme je disais également, bah, sur place, il y a petite restauration, buvette également.
Super. Eh bien, je vous remercie en tout cas d'avoir été avec nous ce soir et puis bonne continuation pour dimanche. On espère que vous aurez du monde.
En tout cas, merci beaucoup Radio U de m'avoir permis de passer mon petit coup de com. Très belle continuation à vous. Moi, j'ai découvert votre radio aujourd'hui sur les ondes et j'en garde un très très bon souvenir. En tout cas, ça va devenir une de mes radios de travail dans la voiture quand je sillonne les rues de Brest Métropole. Donc, c'était une belle découverte et très bonne continuation encore à vous.
Merci à vous aussi. Au revoir.
Au revoir.
finir en beauté sur cette émission du mercredi, nous nous retrouvons avec Gwen pour sa chronique. Bonjour Gwen.
Bonsoir.
Alors, le cinéaste Albert Serra, que l'on connaît notamment pour Pacifiction, s'est intéressé au torero Andrés Roca Rey dans une œuvre sidérante.
Et ce n'est pas un documentaire clinique, c'est au contraire un essai traversé par un regard de réalisateur à l'encontre d'une écriture stéréotypée, contre les plans types, contre les mises en scène vues et revues. Il développe son propre langage cinématographique, ose des cadrages audacieux. Il n'hésite pas à filmer seulement les jambes du torero qui se tendent dans l'effort. Et quand il coupe la tête du personnage, il le fait exister autrement. Il résonne par contraste, il sait faire varier les perspectives. La caméra se libère rarement des gros plans surexploités, mais quand elle le fait, c'est pour explorer tout l'espace scénique dans un souffle vertigineux. Il s'intéresse aussi beaucoup au temps mort, au trajet entre le cirque et la chambre d'hôtel, qui disent la tension du départ et l'euphorie du retour. Et puis filmer ce corps qui s'élance, s'étire, s'étend, le dos excessivement courbé, c'est produire une image qui dit ce que ne peuvent pas dire les mots. Et on s'abreuve de ces draperies virevoltantes, ces vêtements scintillants, qui produisent un imaginaire folklorique intemporel. Les plans serrés zooment sur ce rouge omniprésent, qui est celui du sang qui coule, des blessures, des chairs agonisantes. Le torero et le taureau ne font plus qu'un dans la violence acharnée des forces viriles, à travers la respiration, le halètement, le regard intense, la bouche qui se tend pour former un museau, les exclamations bestiales, les grondements rauques. C'est comme si le torero se métamorphosait lui-même en une bête féroce. Parce que triompher de l'animal le plus dangereux qui soit, c'est prouver sa force virile, qui ferait d'un honnête homme un grand homme, voire plus que ça, un surhomme. Parce que derrière la fierté des proches, la ferveur du public, se dresse donc bien un mythe viriliste qui consiste à satisfaire des attentes préconçues. Ça, c'est des couilles, il en faut. Il faut en avoir de grosses pour faire ce que tu as fait. Tu es un guerrier, entend-on pêle-mêle. Et pourtant, il y a une telle féminité dans ces barres roses, ce temps consacré à s'admirer devant le miroir, se recoiffer, s'apprêter pour être impeccable, régler ses petits pompons au millimètre près, qu'on en vient à croire Judith Butler quand elle affirme que le genre est pure performance, simple pièce de théâtre. Et dans ce spectacle flamboyant, on se demande finalement à quoi bon déployer autant d'artifices. Ce serait une expérience christique faite de transcendance et de dévouement, d'une intensité sans égale. Ce serait la quête d'une vérité, d'une pureté à atteindre. Il ne faudrait donc surtout pas voir ni gratuité ni cruauté dans la mise à mort de l'animal, même si à voir cet être s'effondrer sur le sol puis traîner dans la boue, on se demande comment se réjouir d'une telle démonstration de force. Mais Albert Serra outrepasse cette question politique et filme la tension entre violence et sensibilité, célébration et solitude, sacrifice et spectacle, dans une proposition de cinéma authentique et radicale.
Dans un tout autre registre, tu as assisté samedi à un concert de piano adapté de l'œuvre de Philip Glass, qui lui-même s'était inspiré du cinéma de Jean Cocteau.
Et c'est à se demander si dans ces multiples translations, on ne perd pas peu à peu de l'essence originelle. Parce que si Philip Glass parvenait à enrichir l'œuvre de Cocteau en faisant un opéra, Katia et Marielle Labeck procèdent au contraire par soustraction. Certes, à entendre ces deux pianos s'accorder et se répondre, on assiste à une superposition ingénieuse et brillante. Entre minimalisme et souffle baroque, on retrouve la répétitivité électro si caractéristique du compositeur américain. Et puis la voix de Cocteau, en guise d'interlude, donne un aspect flottant à cette musique enveloppante. Et puis pour le metteur en scène, il a fallu à tout prix fournir un support au regard de l'auditeur à travers ce chandelier de LED au tube fluorescent qui fluctue en fonction des oscillations instrumentales. Cependant, je ne suis pas certain que supprimer les excès de l'opéra, ce serait forcément atteindre l'épure pianistique, sublime sommet de l'élégance. J'ai bien peur plutôt qu'on en ressorte avec le sentiment du manque et le goût du tiède.
C'est vous qui le dites, c'est fini pour aujourd'hui. Mais ne vous inquiétez pas, demain, même si c'est férié, on se retrouve quand même pour une petite courte émission. Et puis sinon, la semaine prochaine. Bonne soirée à toutes et à tous.